Bonjour à tous. Le micro marche pas encore. Ça va arriver. C'est parti, merci la technique pour tout ça. Du coup, quand je réfléchissais à ce message, ça faisait un petit moment que j'avais ça dans ma tête, qui était une église qui te sert. Une église qui te sert. Alors pour ceux qui vont écouter l'enregistrement, la distinction se fait sur le diaporama. En fait, la différence entre une église qui te sert et une église qui te sert, c'est le T majuscule qui n'est pas dans une des deux versions. Et donc du coup, voilà, j'avais envie de parler un peu de qu'est-ce qu'on veut pour l'église, que voulons-nous pour l'église. Alors, j'ai plein de pages aujourd'hui, parce qu'en fait, il a fallu vraiment qu'avant de parler juste de cette question, je voulais vraiment parler de qu'est-ce que c'est que l'église. Donc on va voir dans une première grosse partie, ne soyez pas inquiets, la première partie est plutôt importante, la deuxième, la troisième et la quatrième un peu moins. J'ai fait un plan en trois points, mais il y en a quatre. C'est pas sorti comme je voulais. Qu'est-ce qu'une église? C'est bon, le diaporama est arrivé, c'est parti, merci beaucoup. Déjà la première question, est-ce que l'église est-elle un bâtiment ou est-ce que c'est un rassemblement de personnes, une assemblée? Est-ce qu'on parle d'un lieu ou plus d'un peuple? Bon, la Bible est claire sur ça. L'église n'est pas un bâtiment, mais une assemblée vivante. C'est le peuple de Dieu. Et l'église est sous la responsabilité du Seigneur. Dans Matthieu 16, 18, « Je bâtirai mon église », dit Jésus. Il parle d'une communauté de croyants, pas de pierre. Dans Actes 2, 47, « Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. » L'église, c'est le peuple que Christ a acquis. Dans Éphésiens 1, 22 et 23, « Christ est à la tête de l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. » Il est écrit, il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout et en tous. Dans Éphésiens 5, 25 et 27, comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même. Donc, l'Église est constituée de tous ceux qui ont été rachetés par le sang de Christ. Je reviendrai tout à l'heure dessus, mais il y a une question, une première question, qui est « Et toi ?» L'as-tu accepté dans ta vie? Est-ce que tu es parmi ce peuple qui a été racheté par le sang de Christ? L'Église. L'Église visible, l'Église invisible. Wayne Grudem, qui est notre petit livre de référence au niveau théologie, et donc j'ai pris cette citation, « L'Église visible est l'Église telle que les chrétiens sur terre la voient. Dans ce sens, l'Église visible comprend tous ceux qui professent leur foi en Christ et donnent des preuves de cette foi dans leur vie. Dans notre Église, il peut y avoir des personnes qui sont non croyantes, non sauvées. On parle souvent des gens qui sont inconvertis. Mais il y en a qui vont se dire chrétiens et qui peut-être ne le sont pas. Nous, on ne doit pas avoir de méfiance. Nous, il faut seulement accepter les personnes qui ont confessé publiquement, qui font partie donc de cette assemblée. Il revient à chacun de croire personnellement, de s'engager avec sincérité. Certains, le seul cas où on peut gérer une, on appelle ça la discipline dans l'Église, hein, quelqu'un qui aurait commis un péché public, mais ça sera l'objet d'une prochaine prédication. Non, j'ai ça à cœur aussi, peut-être un jour. Mais sinon, Farid hein, ou un autre. Damien, si tu veux un sujet. L'Église, au niveau de l'Église, elle a différentes tailles, elle va se représenter. On voit dans les Écritures que on part de groupes de maisons, puis de régions et de l'Église universelle. Dans Romains 16, 5, saluez aussi l'Église qui est dans leur maison. Les églises d'Asie vous saluent, Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. En 1 Corinthiens 16, 19. On voit aussi dans Acte 9, l'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Donc on parle bien d'Église dans des régions s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur. Elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Et dans 1 Corinthiens 12, 28, et Dieu a établi dans l'Église première des apôtres, secondement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, pour ceux qui ont les dons de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. On reviendra sur aussi 1 Corinthiens 12. Donc on a vraiment cette Église universelle et les groupes de maisons. Donc on a cette chance dans notre Église d'avoir les groupes de vie qui se constituent de groupes de maisons où on se réunit et on partage ça. J'en reviendrai un petit peu dessus tout à l'heure. Des groupes de vie des hommes. Je m'en rappelle encore de la séance de jeudi. J'ai demandé à Henri, « Henri, ça va, t'as pas mal ?» Lui, il m'a dit « Non, je fais du vélo, donc ça va. » Bon, j'étais voir Nico, mais lui, il avait pas mal. Ça lui a passé, moi encore. Ensuite, l'Église, la Bible nous parle de métaphores pour mieux comprendre l'Église. Il y a pas mal d'images, j'en ai pris quelques-unes. Une des premières images que l'on trouve dans 1 Timothée 5, 1 et 2, « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père, exhorte les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, celles qui sont jeunes comme des sœurs, en toute pureté. » Puis, dans Matthieu 12, 49, 50, « Puis, en tendant la main sur ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car quiconque fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma sœur et ma mère. » Donc, l'Église doit être vue comme une famille de frères et sœurs. Alors, c'est toujours... ça nous interroge toujours, dans le sens que ça dépend dans quel contexte vous avez grandi. Si vous étiez enfant unique, les frères et sœurs, vous n'avez pas la référence. Les parents, ça dépend du coup de votre contexte. Mais on a quand même une idée globale de ce que ça devrait être. Et nous devons nous efforcer de vivre cette famille. Une autre image, c'est l'épouse. Christ est l'épouse et l'Église est cette épouse qui nous encourage à avoir une relation d'amour, d'engagement et de sanctification. Dans Éphésiens 5, 25-32, « Marie, aimez vos femmes. » Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par l'eau, par le baptême d'eau, afin de paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Il dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Ensuite, une autre image, la vigne et l'olivier. Restez attachés. Dans Jean 15, 5, « Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Prédication de David B., il y a, si je ne dis pas de bêtises, il y a quelque temps, qui nous avait parlé du fait de rester attaché au cep. Dans Romains 11, 17 à 22, on nous parle d'une branche d'olivier sauvage qui est greffée, qui a pour but de porter du fruit. Hein, pour ceux à qui ça parle, le fait de greffer un arbre fruitier permet de dire c'était un arbre qui portait pas de fruits ou pas le bon fruit, et là il va venir porter du bon fruit. Donc cette mission de porter du bon fruit. L'Église est aussi un champ ou la moisson. Dieu fait croître, chacun contribue au travail. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son travail, car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu, dans 1 Corinthiens 3, 6 et 9. L'Église est aussi l'édifice, le temple. Dieu habite au milieu de son peuple. Dans Éphésiens 2, 20 et 20 à 22, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice, bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dans Hébreux 3, 6, « Mais Christ l'est comme fils sur sa maison, et sa maison, c'est nous, pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. » Un sacerdoce, offrir des sacrifices spirituels, la louange, l'obéissance. Dans 1 Pierre 2, 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. » Et enfin, une image qu'on reprend souvent, qui est le corps. Je l'ai cité tout à l'heure dans 1 Corinthiens 12, je vais le redire. La diversité des dons, l'unité dans l'interdépendance. Je vous encourage vraiment à vous plonger dans 1 Corinthiens 12 pour voir tout ça. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Donc 1 Corinthiens 12. Et tout le chapitre nous parle de ça. Dans Éphésiens 4, 16, c'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps bien coordonné formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Alors ces métaphores ne sont pas exclusives, exhaustives. Selon les saisons de notre vie, elles vont nous interpeller différemment. Il ne faut pas en appliquer une seule. On ne peut pas restreindre de dire on n'est que le corps ou on n'est que des sarments. Je pense qu'il y a vraiment différentes facettes. Et c'est ce qui fait la richesse de la parole de Dieu, c'est qu'on nous présente différentes facettes de Dieu et là, de l'Église. J'en parlerai un petit peu à la fin, on parlait de ça dans notre groupe de maison, avec les noms de Dieu. On a tout fait cette année une étude sur les noms de Dieu et en fait on découvre différentes facettes et on ne peut pas restreindre, mais chaque facette nous apporte à mieux connaître Dieu. Et donc là, ces facettes, ces métaphores pour l'Église, nous sommes appelés à aimer, c'est la famille, à rechercher la sainteté, être cette épouse irréprochable, à demeurer en Christ, c'est la vigne. À croître et à nourrir les autres, c'est ce champ, la moisson. À vivre la présence de Dieu, le temple. À offrir des sacrifices spirituels, être un sacerdoce. À fonctionner en unité et en complémentarité. Oui, c'est peut-être ça qui est le plus difficile des fois. Mais on est encouragé à ça. Être une véritable église. C'est ma dernière petite partie sur un état des lieux de l'Église. Calvin et Luther, les réformateurs, donnent ces trois points. Une véritable Église. La parole de Dieu est prêchée fidèlement. On revient toujours à la parole de Dieu. Les sacrements sont administrés selon l'Évangile. Alors les sacrements, la scène et le baptême. Damien est venu voir ce matin, il n'y a pas de scène. fais, ok, super. Mais c'est vrai qu'on le fait régulièrement. Et à l'époque, il faisait à chaque fois qu'ils se réunissaient, ils faisaient au repas, hein, ils faisaient dans les maisons. Il y a des églises, ils le font une fois par mois parce qu'ils ne veulent pas tomber dans une habitude pour vraiment prendre conscience. Donc, pas de problème. Ce ne sont pas des moyens magiques, hein, les sacrements. Ce n'est pas eux qui sauvent. Mais ils attestent et nourrissent notre foi vivante. Leur but est de nous rappeler l'œuvre de Christ et de nous unir les uns les autres dans l'Église. Et enfin, les responsables, les anciens, les évêques, veillent à la saine doctrine et à l'édification. Voilà un petit peu comment cette Église véritable, ce que l'on doit rechercher. Il ne suffit pas d'être rassemblé. Il faut rester centré sur la foi en Christ seul et vivre en cohérence avec la parole de Dieu. En deuxième partie, quels sont les buts de l'Église ? Les trois buts de l'Église, on peut les voir de la manière suivante. Déjà, est-ce que personne n'est endormi, c'est bon ? Sinon, réveille ton voisin. Dieu n'a pas simplement rassemblé un peuple pour qu'il existe en vase clos. L'Église a une mission triple qui découle de l'amour de Dieu, de l'œuvre de Jésus-Christ. Elle est appelée à servir Dieu, servir les croyants et servir le monde. Premier but, l'adoration, servir Dieu. Dans Éphésiens 1, le verset 6, 12 et 14, par trois fois, Paul dit que nous sommes sauvés pour la louange et la gloire. À la louange de la gloire de sa grâce qui nous a été accordée en son bien-aimé, afin que nous servions à la louange et de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Dans Jean 4, 23, le Père cherche des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande, dans Jean 4, 23. L'adoration ne se limite pas à chanter. Elle inclut la prière, la lecture de la parole, toute notre vie livrée à Dieu. Dans Romains 12, 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. » Comme peuple, l'Église se réunit pour exprimer ensemble sa reconnaissance, sa joie, sa soumission à Dieu. Cela nous centre sur notre Créateur, notre Sauveur. Deuxième but, servir les croyants, l'édification du corps de Christ. La deuxième mission, c'est de faire grandir les croyants. Alors, on pourrait dire former des disciples. Et former des disciples, ce n'est pas juste amener au baptême, c'est croître. Éphésiens 4, 11 à 16, Dieu a donné des ministères, les apôtres, les pasteurs, les enseignants, pour édifier le corps de Christ jusqu'à ce qu'il parvienne à la maturité. Dans Actes 2, 42, les premiers chrétiens persévéraient dans l'enseignement des apôtres, la communion fraternelle, la fraction du pain et les prières. L'Église est un lieu d'enseignement pour que les croyants soient enracinés dans la vérité. Un lieu de soutien mutuel pour que personne ne reste seul dans la foi. Un lieu de correction dans l'amour pour aider à persévérer. L'édification n'est pas passive. Chacun reçoit des dons pour contribuer à la croissance de tous. 1 Pierre 4, 10, « Comme de bons dispensateurs de diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. » C'est chacun. Ce n'est pas il y en a qui ont des dons et les autres qui en profitent. Troisième but, servir le monde. C'est la grande mission, je crois qu'on dit parfois. Matthieu 28, 19, 20, Jésus envoie les disciples pour faire de toutes les nations des disciples, les baptiser, les enseigner à garder ses commandements. Acte 1, 8, vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. La troisième mission de l'Église est bien de témoigner au monde, pour annoncer l'Évangile avec audace et avec clarté, pour manifester l'amour de Christ en actes, aider aux pauvres, l'hospitalité, dans la justice, le soin de la création, pour être le sel et lumière dans un monde qui s'égare. On voit ça aussi dans Matthieu 5, 13 à 16. Il ne s'agit pas d'être dans le monde au point de lui ressembler, ni hors du monde au point de l'ignorer, mais être au cœur du monde, comme des ambassadeurs de Christ. En conclusion de cette première partie de qu'est-ce que l'Église, j'ai essayé au maximum de voir un petit peu les différentes parties. On a les trois buts, tourner vers Dieu, l'adoration, solide en elle-même pour l'édification et ouverte sur le monde, c'est la mission. Si l'une de ces missions manque, ben l'Église va s'appauvrir, va se déformer. On ne peut pas être une Église juste dans l'adoration. On ne peut pas être juste tourné vers les autres ou juste dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est vraiment ces trois buts doivent être équilibrés. C'est dans cet équilibre que se manifeste pleinement la sagesse de Dieu. Et il y a un verset dans Éphésiens 3:10, « Afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. » En fin de cette première partie, je voulais juste poser quelques questions. On les a. Est-ce que vous avez déjà pris conscience de la différence entre l'Église globale et l'Église où l'on se rencontre? Peut-être que certains, oui. Peut-être que d'autres, non. On parle souvent de l'Église, ben c'est l'ensemble et l'Église dans laquelle on fait. On a nos frères et nos sœurs qui se réunissent dans différents lieux à Nîmes, en même temps que nous, en décalé. Ça fait partie aussi de l'Église. Est-ce que ces différentes images, ces différentes métaphores changent-elles le regard sur l'Église dans laquelle nous appartenons? Est-ce que on avait plutôt un focus sur être attaché au Père, sur le champ pour nourrir, ou le corps, on est tous différents, il faut qu'on fonctionne ensemble. À quelle vue de l'Église pensez-vous pouvoir contribuer plus efficacement? Et ça va introduire aussi notre dernière partie. Est-ce que notre Église s'efforce bien sur ces trois buts? Adorer, s'édifier, et apporter la bonne nouvelle. Maintenant, on va pouvoir passer à ce qui m'intéressait dans mon message, dans ma réflexion aujourd'hui. Une Église qui te sert. Et en gros, c'est quel est notre rapport à l'Église? Pourquoi viens-tu à l'Église? Que viens-tu chercher? On arrive tous avec différentes attentes. Et c'est sûrement normal. Mais quelles sont les motivations profondes que l'on a? Est-ce qu'on recherche une appartenance? Faire partie d'un groupe, une appartenance sociale? Un héritage peut-être? Culturel? Familial? L'Église, est-ce que ça pourrait être un club? Est-ce qu'on cherche du soutien? Bah, dans nos difficultés, peut-être qu'on est arrivé dans ce contexte-là. Un soutien affectif, moral, voire même spirituel, un soutien matériel. Est-ce que tu viens pour suivre ton conjoint? Parce qu'on est chrétien, donc on va à l'église. Est-ce que c'est pour donner une bonne image aux enfants? Est-ce que tu viens pour trouver ton conjoint? Il peut y avoir pas mal de raisons. Et les raisons peuvent être sincères, mais elles ne suffisent pas. L'Église n'est pas là pour combler tes besoins, mais elle est là pour te transformer au contact de la parole de Dieu. Es-tu en train d'utiliser les autres ou de les aimer? Je ne vais pas détailler ce point, hein, 21 septembre 2024, week-end de rentrée, David Gay nous a parlé de aimer, l'utilitarisme. Je vous encourage vraiment à reprendre ce message. Que l'amour vienne nous saisir et qu'on ne soit pas à se servir de l'autre. L'amour ne cherche pas son propre intérêt, dans 1 Corinthiens 13, 5. Dans Jean 13, 34 à 35, Jésus nous appelle à nous aimer comme il nous a aimés. C'est à cela que le monde reconnaîtra que nous sommes ses disciples. On dit toujours que c'est facile d'aimer les gens qui nous aiment. Hein ? Il y en a certains, c'est plus difficile. Lui, Jésus, il a fait don de sa vie. Et toi, répondras-tu aujourd'hui ? L'amour, selon Dieu, ne prend pas d'abord. Il donne. C'est en donnant que l'on reçoit. L'exemple de Jésus. Il est venu pour servir, pas pour être servi. Lui qui aurait pu tout demander, réclamer, il est venu servir dans Marc 10, 45. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. Il a lavé les pieds de ses disciples. On voit ça dans Jean 13. Il a donné sa vie pour eux. Est-ce que toi aussi tu viens à l'église dans une attitude pour consommer ou au contraire, de non-consommateur, pour grandir dans l'amour, dans l'écoute, dans l'obéissance à Dieu ? L'obéissance à Dieu ? Vous étiez là la semaine dernière ? Damien nous a parlé de ça. Dernière partie, une église qui te sert. Et le « te », cette fois-ci, ça ne sera pas moi, mais ça sera Dieu. Et toi, que fais-tu ? Qu'apportes-tu à Dieu ? Dans Romains 12, 1, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Apporte un culte actif et pas passif. » Psaume 100, verset 2, « Servez l'Éternel avec joie. » L'adoration ne se résume pas le dimanche matin. Elle se vit au quotidien, dans nos choix, dans nos gestes, dans nos paroles. Même si ton attitude était de venir à l'église parce que tu avais des besoins, parce que tu avais des aspirations, aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas apporter aux autres ? L'église est un corps, chaque membre est utile. Dieu t'a donné un don, une parole, une capacité à servir quelqu'un. Est-ce que tu accueilles les nouveaux ? Est-ce que tu réconfortes ceux qui souffrent ? Est-ce que tu es disponible pour ceux qui ont besoin d'épancher leur cœur ? Est-ce que tu encourages les découragés ? Est-ce que tu pries pour les autres dans l'église ? Est-ce que tu annonces l'évangile ? Est-ce que tu pourvois aux besoins des nécessiteux ? Si tu es rempli de l'amour de Dieu, tu débordes. Ce que tu as reçu, tu peux maintenant le transmettre. Donne à Dieu et il pourvoira, il a pourvu. Tu crois que peut-être tu n'as pas grand-chose à donner. Mais Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Sinon, il attendrait longtemps. Pour t'utiliser, il pourvoit, il guérit, il renouvelle. Dans notre groupe de maison, on a parlé de ce Jéhovah Jiré, qui est Dieu pourvoit. Et notre grosse réflexion, c'était, enfin grosse réflexion, c'était de se dire, est-ce que Dieu pourvoit pour qu'on soit dans la prospérité ? Et en fait, la réponse était, Dieu a pourvu. Le seul problème qu'il fallait vraiment régler, c'était de nous réconcilier avec le Père. Et il a pourvu. Jéhovah Jiré, c'est le sacrifice d'Abraham, il a pourvu au sacrifice. Jéhovah Jiré, c'est Jésus qui a pourvu pour nous réconcilier. Et on a vu, pas plus tard que mardi soir, Jéhovah Rapha, je suis l'Éternel qui guérit. Et on se posait la question, hein, je me tiens devant vous malade, et de se dire, est-ce qu'il doit guérir toutes nos maladies ? Qu'est-ce que c'est ce, Ce Dieu qui guérit, ben, il a guéri, il a transformé notre cœur. Il nous a restaurés. Et il guérit, et je crois qu'il peut guérir, bien sûr. Matthieu 6, 33, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Éphésiens 3, 20, « À celui qui peut, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons et nous pensons. » Ça, c'est des versets qui boostent, qui nous donnent, il fait infiniment au-delà de ce qu'on peut penser. Je ne sais pas vous, mais j'ai une grande imagination. Est-ce que, j'aimerais conclure par des questions et par des applications concrètes, que nous ne restions pas dans une attitude de « ok, il y a l'Église ». Moi, je pense que, en préparant ce message, je me suis posé la question, alors je sais qu'on est dans une dynamique, mais est-ce que notre Église remplit bien ses trois buts ? Est-ce qu'on est équilibré dans l'adoration, dans l'édification et dans l'évangélisation ? Est-ce qu'il y a des axes d'amélioration ? Et je crois qu'on le fait. Que feras-tu maintenant ? Que voulons-nous pour notre Église ? Voulons-nous une Église qui nous sert ? Ou une Église dans laquelle nous servons Christ ensemble ? Ça répond à la question de qui sers-tu ? Est-ce que tu te sers toi ? Ou est-ce que tu veux servir Dieu ? Est-ce que c'est une Église qui te sert ? Ou enfin, est-ce que c'est l'Église qui vient servir notre Seigneur et notre Maître ? La question que l'on doit se poser, c'est la relation que l'on a à l'Église. Est-ce que ça reflète la relation qu'on a avec Dieu ? Tu ne peux pas servir Dieu si tu sers d'abord ton confort, ton image, ton intérêt personnel. Tu ne peux pas aimer les autres si tu viens seulement pour recevoir. Mais si tu regardes à Christ, le serviteur parfait, alors tout change. Il est celui qui t'a aimé en premier. Il t'a servi jusqu'à la croix qui t'a sauvé. Et il t'envoie maintenant pour servir à son tour. Maintenant, les applications concrètes. On doit se poser des questions, on doit s'examiner. Pourquoi viens-tu à l'église ? Par habitude, par pression ou par soif de Dieu ? Chaque jour, chaque semaine, qu'est-ce que j'apporte à Dieu aujourd'hui ? Dimanche matin, Seigneur, sers-toi de moi. J'ai envie de t'apporter ma louange, mais j'ai envie aussi d'apporter. Est-ce que je peux aller prier pour quelqu'un ? Est-ce que j'ai une parole à transmettre pour l'assemblée ? Est-ce que je peux venir bénir quelqu'un d'autre ? Est-ce que je peux m'impliquer dans un service ? Est-ce que je peux encourager ? Est-ce que je peux aider ? Est-ce que je peux accueillir ? Est-ce que je peux répondre à un besoin de quelqu'un qui le manifeste ? Engage-toi humblement. Il n'y a pas besoin d'un rôle officiel pour servir. Il suffit d'un cœur disponible. Ne venons pas à l'église comme des consommateurs, mais venons comme un adorateur, comme un frère, comme une sœur, comme un serviteur de Jésus. Il a tout donné, alors à notre tour. Donnons-nous pleinement. Et laissons-le nous transformer. Soyez bénis.